Féroé Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du lundi 29 août 2022. Avec vous, Eric Manirakidza. Voici d'abord le sommaire. En Angola, le MPLA au pouvoir remporte les élections législatives, donnant un second mandat au président sortant João Lourenço. Au Burkina Faso, l'armée dit avoir abattu hier 28 terroristes présumés dans différentes opérations militaires. Le décollage de la fusée d'Artemis vers la Lune reporté est resté possible vendredi. Pires inondations au Pakistan depuis 30 ans, plus de 1130 morts et un tiers du pays sous les eaux. Dans 10 minutes, vous suivrez également les l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Angola, le MPLA, parti au pouvoir, a remporté les législatives, donnant un second mandat au président sortant João Lourenço, selon les résultats officiels annoncés ce lundi. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le MPLA, Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, a recueilli 51,17% des voix, selon les résultats définitifs annoncés par la Commission nationale électorale. Le premier parti d'opposition, l'UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, dirigé par Adalberto Costa Junior, remporte 43,95%. Pereira da Silva, juge de la Cour suprême et chef de la Commission nationale électorale.
L'Assemblée plénière de la Commission nationale électorale proclame président de la République d'Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, tête de liste du parti politique MPLA, ayant obtenu le plus de voix aux élections générales du 24 août 2022.
En Angola, la tête de liste du parti vainqueur aux législatives est investie chef d'État. Le MPLA conserve la majorité au Parlement avec 124 sièges sur 220. Mais il perd la majorité des deux tiers qui lui permettaient jusqu'ici de passer des lois sans le soutien d'un autre parti. Moins de la moitié des plus de 14 millions d'inscrits ont participé au scrutin avec 55% d'abstention.
Au Burkina Faso, un soldat a été tué et au moins 28 terroristes neutralisés dimanche lors de deux opérations distinctes dans le nord et l'est du pays. Des bases de présumés terroristes ont été détruites et de l'armement a été récupéré selon l'état-major burkinabé, Lamine Traoré.
Selon le communiqué de l'armée hier dimanche, les forces spéciales appuyées par l'armée de l'air ont lancé un assaut sur une importante base terroriste située près de la localité de Soam, dans la province du Gourma, région de l'Est. La base a été complètement détruite et au moins 10 présumés terroristes ont été neutralisés, indique le communiqué. Aussi, de l'armement, des moyens roulants, des moyens de communication et du matériel de campement ont été récupérés, affirme l'état-major. Toujours dimanche, le détachement militaire de Seba a conduit une contre-offensive près de la localité de Helga, province du Yaga, région du Sahel. Au cours de l'opération qui a permis de démanteler deux bases et un plot logistique, les unités ont été accrochées par des terroristes à plusieurs reprises, peut-on lire dans le communiqué. Des combats au cours desquels un de nos soldats a perdu la vie, ajoute l'armée d'indiquer. Côté ennemi, au moins 18 présumés terroristes ont été abattus et du matériel est récupéré. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Quelques 700 imams et prêcheurs musulmans du Burkina Faso ont dénoncé lundi l'intolérance religieuse et ethnique après des appels au meurtre contre les Peuls. Dans une déclaration, le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina indique que ces messages peuvent être source d'affrontements extrêmement violents. Le groupe islamiste Al-Shabaab, basé en Somalie, a lancé une nouvelle menace contre le Kenya voisin. Al-Shabaab a déclaré qu'il poursuivra ses attaques dans ce pays tant que les troupes kenyanes seront en Somalie. Des combats ont été signalés lundi au sud de Kobo, que de nombreux habitants ont fui depuis que cette localité éthiopienne de la région de la Mara est tombée samedi aux mains des rebelles de la région du Tigré. Un homme d'origine soudanaise a été tué à l'armée blanche et un autre grièvement blessé dimanche dans le centre-ouest de la France par un individu qui a été interpellé. Le procès en appel du magnat franco-israélien Benny Steinmetz a débuté aujourd'hui à Genève en Suisse. Il avait été condamné en première instance pour corruption dans un dossier de droit minier en Guinée. Au Nigeria, un tribunal a rejeté lundi une demande d'extradition de l'ancien responsable de la police vers les États-Unis. Il avait été impliqué par un influenceur nigérian dans une affaire de fraude après avoir plaidé coupable de blanchiment d'argent et d'autres délits aux États-Unis. Selon le FBI, les activités frauduleuses de l'influenceur Ushopi ont coûté à ses victimes près de 24 millions de dollars. Des procureurs sud-africains ont annoncé lundi l'arrestation de plusieurs anciens cadres de la compagnie publique de transport sud-africaine Transnet au centre d'une enquête très médiatisée pour corruption sous le mandat de l'ex-président Jacob Zuma. 14 personnes ont été tuées et 33 blessées lundi à Madagascar après que les gendarmes ont ouvert le feu sur des habitants en colère autour d'une affaire d'enlèvement. C'est ce qu'a dit le médecin en chef de l'établissement où des victimes ont été transportées, mais les gendarmes ont donné un bilan plus bas avec 11 morts et 18 blessés. La semaine africaine du climat s'est ouverte lundi à Libreville, la capitale gabonaise, en présence d'un millier de représentants de gouvernement, d'organisations internationales, d'ONG du secteur privé de plus de 60 pays africains. L'objectif est notamment de parler d'une voix unique pour l'Afrique à la COP27 et de formuler des propositions concrètes, a plaidé Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Rendez-vous manqué pour la méga fusée Artemis qui devait marquer le retour de la Lune, sur la Lune 50 ans après le dernier vol d'Apollo. Le décollage prévu ce matin a été annulé en raison d'un problème technique mais pourrait toujours avoir lieu lors de la prochaine fenêtre de tir vendredi, a estimé un responsable de l'agence spatiale américaine, Abdourahmane Dia.
Alors que le jour se levait peu à peu sur la fusée orange et blanche, haute de 98 mètres, le décollage était devenu de plus en plus improbable. Les réservoirs de la méga-fusée ont bien été remplis de plus de 3 millions de litres d'hydrogène et d'oxygène liquide ultra-froid, mais une fuite a entraîné une pause. Les prochaines dates de décollage possibles sont les 2 et 5 septembre. Des milliers de personnes avaient fait le déplacement pour assister au spectacle, dont la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Ce report n'est pas forcément une mauvaise chose pour la zone de Cocoa Beach, non loin du centre spatial Kennedy, qui dépend beaucoup du tourisme spatial. Plus de visiteurs sont d'ailleurs attendus avec ce report. 50 ans après le dernier vol d'Apollo, la mission Artemis 1 doit marquer le début du programme américain de retour sur la Lune qui doit permettre à l'humanité d'atteindre ensuite Mars. La mission doit propulser la capsule Orion sans équipage jusqu'en orbite autour de la Lune afin de vérifier que le véhicule est sûr pour de futurs astronautes dont la première femme et la première personne de couleur qui marcheront sur la surface lunaire.
Des dizaines de millions de Pakistanais luttent contre les pluies torrentielles qui ont fait au moins 1130 morts, emporté d'innombrables maisons et détruit des terres agricoles. John Linden.
Un tiers du Pakistan est sous les eaux, a indiqué le ministre du Changement climatique, évoquant une crise de proportions inimaginables. Les pluies de mousson qui ont débuté en juin sont sans précédent depuis 30 ans, a déclaré lundi le premier ministre en parcourant les régions touchées dans le nord. Une énorme opération de secours est en cours dans le pays où l'aide internationale commence à arriver. Les responsables pakistanais attribuent ces intempéries dévastatrices au changement climatique, affirmant que le Pakistan subit les conséquences de pratiques environnementales irresponsables ailleurs dans le monde. Plus de 33 millions d'habitants, soit un Pakistanais sur 7, ont été affectés par les inondations et près d'un million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées, selon le gouvernement. Selon le dernier bilan de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes, au moins 1061 personnes ont été tuées depuis le début de la mousson en juin. 28 sont décédées ces dernières 24 heures.
Les Nations Unies et le gouvernement pakistanais vont officiellement lancer mardi un appel aux dons de 160 millions de dollars pour financer l'aide d'urgence au Pakistan victime d'inondations historiques, a indiqué lundi le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. 12 personnes ont été tuées par balle dans la zone verte de Bagdad en plein chaos après un nouveau coup d'éclat du leader chiite Muqtada Sadr qui a annoncé son retrait définitif de la politique en Irak, désormais sous couvre-feu. Moqtada Sadr a aussi annoncé la fermeture des institutions liées à sa famille, à l'exception du mausolée sacré de son père Mohamed Sadr, mort en 1999, du musée d'honneur et de l'autorité du patrimoine Al-Sadr. L'Ukraine a lancé, les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive dans le sud destinée à repousser les troupes russes et à reprendre la ville occupée de Kherson.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Lors de la 8e conférence internationale de Tokyo pour le développement africain Tunis ce week-end, le chef de l'État sénégalais et président de l'Union africaine Macky Sall a affirmé devant la presse que certains pays d'Afrique de l'Ouest consacrent 30% de leur budget à la lutte contre le terrorisme et a demandé que ces charges pour les armées soient exclues des calculs du déficit. M. Sall a évoqué un réchelonnement ou effacement des dettes et réitéré la demande de suspension du remboursement des intérêts promise par le G20. Le Fonds saoudien pour le développement a conclu un accord de 6,7 milliards de francs CFA avec le Cameroun pour la construction d'un hôpital régional à Mbalmayo dans la région du centre. La structure médicale aura une capacité de 200 lits et prévoit une zone d'atterrissage d'urgence pour hélicoptères. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le Fonds régional arabe basé au Koweït financent aussi le projet à part égale.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Basketball sur le continent africain pour commencer, fin hier de la 4e fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023.
Oui, la Côte d'Ivoire valide sa qualification pour le Mondial après avoir dominé la poule E, 3 victoires en 3 matchs, la dernière 77-69, dans un match décisif contre le Cap-Vert. Un 5e Mondial décroché par les Ivoiriens dans une ambiance incroyable qui ne laisse pas indifférent le meneur de jeu, Solo Diabaté.
Cette qualification, je pense que c'est mérité. On s'est bien battu à l'entraînement pendant 3 semaines et c'est la continuité de ce que les gars ont fait le mois dernier. Donc voilà, on est très content de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et en plus, en Côte d'Ivoire, devant notre public, c'est incroyable. Si on peut avoir des compétitions souvent en Côte d'Ivoire ici, ce serait vraiment bien pour nous-mêmes, pour le basket et pour tous les fans de basket.
En revanche, il faut attendre la 5e et dernière fenêtre pour être fixé dans le groupe F, où le Sénégal s'est repris en alliant 3 victoires. Le Soudan du Sud, vainqueur de l'Égypte, garde tout de même la tête du groupe. La compétition se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023.
Football, Pierre-Emerick Aubameyang, victime d'un vol en main armée.
Ça s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi au domicile de l'attaquant gabonais du FC Barcelone. Il va bien, effrayé mais bien, indique une source interne au club. Selon le quotidien El País, au moins 4 hommes ont pénétré dans la maison de l'international gabonais à Castel d'Efel, près de Barcelone, en passant par le jardin, armés de pistolets et de barres de fer. Ils ont menacé Aubameyang et sa femme et ont frappé le joueur. Les voleurs se sont enfuis en voiture après avoir forcé Aubameyang à ouvrir son coffre-fort afin de dérober les bijoux qui étaient à l'intérieur. Détaille encore le journal, une porte-parole de la police catalane a confirmé l'ouverture d'une enquête au sujet d'un vol avec violence à Castel d'Efel, mais n'a pas voulu révéler l'identité de là où les victimes.
Et avant de nous quitter, Yacouba, tennis avec l'US Open qui débute ce lundi, Serena Williams entame sa dernière danse.
Surmonter l'émotion et se battre comme l'immense championne qu'elle restera jamais, Serena Williams devrait jouer à l'US Open vraisemblablement l'ultime tournoi d'une phénoménale carrière avec l'objectif de prolonger le plaisir contre la Monténégrine Danka Kovinic pour son premier tour ce soir à 23h temps universel à New York. C'est là où tout a commencé pour elle puisqu'elle y remporta en 1999 le premier de ses 23 grands chelems. À seulement 17 ans, quel que soit le résultat de ce match, l'Américaine qui fêtera son 41e anniversaire le 26 septembre ne quittera pas encore définitivement les cours. Elle disputera aussi le tournoi de double aux côtés de sa sœur aînée, Venus, les sœurs Williams, qui ont remporté ensemble 14 titres du Grand Chelem, dont 2 fois l'US Open, joueront mercredi ou jeudi.
Et c'est tout pour les sports. Merci à Cuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakizade, retour avec vous, place au dossier du jour. Au Burundi, dans quelques jours, des centaines de milliers de jeunes du primaire et du secondaire vont faire leur rentrée scolaire. Les prix du matériel scolaire ont augmenté d'une façon significative et dans de nombreux ménages, il sera difficile d'envoyer les enfants à l'école. Le reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Si les prévisions du ministère de l'enseignement primaire et secondaire sont suivies à la lettre, le 5 septembre, plus de 5 millions de jeunes Burundais vont retourner dans les classes, mais les prix du matériel scolaire ont augmenté, passant presque du simple au double. Mama Chichina est mère de 5 enfants, habitant un quartier au centre de Bujumbura, et affirme qu'il lui sera très difficile d'envoyer ses enfants à l'école, surtout qu'elle et son mari n'ont pas de travail pour le moment.
Une douzaine de cahiers de 100 feuilles vaut 23 000 et plus. De 48 feuilles vaut 21 000 et quelques, ainsi de suite. Pour le moment, en tant que mère de 5 enfants qui vont à l'école, c'est vraiment dur. C'est très très dur, c'est très difficile.
Ces paroles de cette mère sont ceux de plusieurs parents à Bujumbura et dans le reste du pays. Ce commerçant assez riche reconnaît qu'avoir le matériel scolaire pour cette année ne sera pas aisé pour plusieurs ménages.
C'est pas facile, je dirais même que c'est très difficile parce qu'on ne va pas trouver de l'argent juste pour acheter le matériel scolaire pour nos enfants. C'est le grand problème que nous avons. En général, il y a eu la hausse généralisée des prix. Raison pour laquelle on ne voit pas comment nous allons sortir de ce problème. Parce que c'est vraiment très difficile à sortir à cause de cette hausse généralisée des prix. On se voit réunis parce qu'il n'y a même pas le carburant pour acheter même le haricot. Le haricot qui est l'aliment de base de tous les Burundais.
Cet autre habitant de l'intérieur, mais qui est arrivé à Bujumbura ce lundi et qui a requis l'anonymat, affirme que cette rentrée s'annonce mal pour les parents.
Ça demande des moyens. Surtout, si je commence par les cahiers, un cahier de 100 feuilles coûte actuellement entre 1 800 et 2 000. Chacun te demande au moins 50 000. Si je multiplie par 5, ça fait 50 000. On doit ajouter les uniformes, les chaussures, mais les vaches aussi, tu dois payer dès la rentrée scolaire. Avant, si tu avais une petite vache, on vendait, mais même maintenant, c'est difficile. Puis grimper, du jour au jour, se déplacer aussi, c'est un problème. Je pense que notre gouvernement va nous aider.
C'est vrai que le gouvernement burundais a adopté depuis plusieurs années une politique de gratuité de l'enseignement public. Mais est-ce que demain, les cahiers seront gratuits dans les écoles primaires et secondaires? Cette question, pour le moment, n'a pas encore sa réponse. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Libreville, capitale africaine du climat dès demain mardi, l'événement est conçu pour créer une dynamique avant la pré-COP27 qui se tiendra en RDC et la COP27 en Égypte. La semaine africaine du climat prévoit un agenda très chargé jusqu'au 1er septembre prochain. Le compte rendu de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang Nze.
En marge des activités de la semaine africaine du climat, les défenseurs de l'environnement donnent le ton au rendez-vous qui s'ouvre ce mardi par une marche pacifique dans les rues de Libreville. Séraphin Ekemi, responsable de l'ONG Fondation Villageoise de Gestion de la Nature.
Cette marche a double connotation. La première, c'est interpeller la communauté internationale sur les dangers que la planète est en train de subir par rapport au changement climatique. Bon, maintenant, la deuxième, c'est que nous voulons impliquer la population gabonaise sur la protection de l'environnement à travers la réduction des émissions de CED.
Depuis quelques jours, l'événement accueille ses premières délégations. L'ambition affichée par les participants est de parvenir à des positions communes sur la justice climatique. Ahmed Sékou Diallo est président de la plateforme climat du Mali.
La position, c'est pour une meilleure justice climatique pour nous les Africains, qui polluent moins, qui ne polluent même pas du tout, mais qui vivent les effets néfastes du changement climatique. Donc il faut passer à l'action. Trop de paroles Maintenant, nous disons trop, c'est trop, il faut passer à l'action.
Nikes Moulombi, président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale.
Quid de la question d'adaptation? Et donc nous sollicitons, nous exigeons et nous recommandons une plus grande transparence sur les fonds qui devraient être mis dans le cadre de l'adaptation. Fini les promesses, il faut passer à la mise en œuvre telle que recommande Marrakech.
Étape clé avant la COP27 prévue en novembre prochain en Égypte, la Semaine africaine du climat veut faire progresser l'action climatique. Professeur Lee White, ministre gabonais des Eaux et Forêts.
Et si le voix de l'Afrique monte pas au créneau pour la justice climatique, l'Afrique risque de tomber dans la plus grande crise qu'on a jamais vue, avec les centaines de millions de réfugiés climatiques.
Un rappel, les efforts du Gabon pour cette cause lui ont déjà valu plusieurs récompenses. Récemment, le pays a reçu 17 millions de dollars, environ 9,3 milliards de francs CFA, pour les efforts continus entre 2016 et 2017 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers la préservation de son couvert forestier. Le financement a été accordé dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale gérée par les Nations Unies. Lille-Priel Ismaël Obianzé pour VO Afrique.
La rééducation des personnes ayant des problèmes de mobilité dans les structures sanitaires coûte très cher et tout le monde n'a pas les moyens pour se l'offrir. Pour pallier à ce souci, l'Aquagib est en train de devenir la solution assez pratique au Sénégal. Des personnes du troisième âge et celles victimes d'AVC commencent à l'adopter pour soigner leurs maux tout en profitant des vagues. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
À la plage d'Angor, samedi matin, ils sont plus d'une cinquantaine dans l'eau, munis d'un gilet et d'une bouée. Ils suivent à la lettre les consignes du moniteur. Sifflet à la bouche, Nyambe Samb est l'initiateur de cette pratique au Sénégal. Il estime que c'est un sport complet.
Si vous faites 30 minutes dans l'eau, ça représente à la marche 1h30 ou 2 heures de marche. Et ça représente 6 à 7 km selon votre rythme. Et en 2 heures de temps, si vous faites de la marche, vous brûlez 600 à 700 calories. Et dans l'eau, en 30 minutes, vous brûlez aussi 600 à 700 calories. Donc c'est la raison pour laquelle la gym aquatique est plus bénéfique que l'espoir terrestre.
Cette gymnastique nautique comporte de nombreux bienfaits pour l'esprit et pour le corps. Khadija Toukan a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2021.
Je suis venue pratiquer l'aquagym parce que j'étais victime d'AVC. Au début, je me soignais à l'hôpital Salipou Davo et c'est eux qui m'ont demandé de venir faire ma rééducation ici. Je ne le regrette pas. En venant ici au début, je n'arrivais pas à marcher. J'avais besoin d'assistance pour mettre le gilet. Mais maintenant, je vais bien par la grâce de Dieu. Et le tout, c'est en moins d'une année. Maintenant, je marche correctement et j'ai même repris mon business.
Matar Silla, kinésithérapeute, est venu accompagner son patient.
Avec l'aquagym, ça lui permet de récupérer plus rapidement. Donc, les massages, c'est bon. Mais avec l'aquagym, ça permet de reconnecter le cerveau et les membres. Quand on dit AVC, il faut noter qu'il y a un dysfonctionnement entre le cerveau et les membres. Dans les pays développés, il faut ce qu'on appelle la neurochirurgie. Mais malheureusement, ici, on peut faire la neurochirurgie, mais c'est un peu risqué. Donc, à faire l'aquagym, ça leur permet vraiment de ne pas prendre tout le risque.
Et même s'il est bien portant, Serigne Saliou, qui est âgé de 70 ans, vient pour se relaxer.
Ça se fait dans une bonne ambiance. On va s'asseoir, c'est un peu relaxant. Bon, on oublie le stress et tout ça. On y tire beaucoup de profit sur le plan physique, à proprement parler, sur le plan moral, sur le plan de la détente, sur le plan des relations humaines. Il y a une chaleur et puis tout ça, ça contribue à améliorer la qualité de vie, quoi.
Allier la détente, le plaisir d'une baignade tout en profitant des bienfaits sanitaires, c'est le sens de l'aquagym. Sérina Abagay, Dakar, pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, effervescence politique aux États-Unis à 2 mois des élections de mi-mandat. Entre la perquisition inédite au domicile d'un ancien président, Donald Trump en l'occurrence, et l'effacement d'une partie de la dette estudiantine en passant par l'inflation, les sujets opposants aux démocrates et républicains ne manquent pas. Le léger rebond dans les sondages de Joe Biden suffira-t-il aux démocrates pour garder le contrôle du Congrès en novembre prochain, alors que les républicains continuent de croire que le niveau élevé de l'inflation jouera en leur faveur? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA.
Suite à la perquisition de la résidence de l'ancien président américain Donald Trump en Floride, un juge fédéral a prévu une audience plus tard cette semaine sur l'utilisation d'un arbitre indépendant pour examiner les documents saisis. M. Trump invoque un privilège exécutif. Le ministère américain de la Justice n'a fait aucun commentaire. Un sujet d'Arash Arabassadi, le récit est de Claire Morejibour.
Une bataille juridique est ouverte depuis le 8 août, date de la perquisition inédite des agents fédéraux à la résidence de l'ancien président Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride. Malgré des mois de demandes et une citation à comparaître plus tôt cette année, M. Trump a conservé des documents qui, selon les archives nationales, auraient dû être correctement stockés en vertu de la loi sur les archives présidentielles et non chez un particulier. Les agents ont trouvé 11 dossiers de documents classifiés, dont certains contenaient les noms de sources confidentielles. Donald Trump et son équipe juridique ont hésité à rendre public les détails du mandat de perquisition du ministère de la Justice, récemment publié sous une forme fortement expurgée. Ils ont demandé à un juge fédéral, nommé par Trump en 2020, de nommer un arbitre indépendant pour examiner les documents saisis afin d'établir si Trump pouvait revendiquer le privilège exécutif. La juge Eileen Cannon a indiqué son intention préliminaire de nommer cet avocat spécial. Le sénateur républicain Roy Blunt s'est exprimé dimanche dans l'émission This Week sur la chaîne ABC.
C'est une bonne chose qu'un avocat spécial regarde ces documents pour les trier entre ceux que l'ancien président avait parfaitement le droit d'avoir et ceux qu'il n'avait pas encore rendus. J'ai cru comprendre qu'il avait remis beaucoup de documents. Il aurait dû tous les rendre. J'imagine qu'il le sait très bien maintenant.
Monsieur Trump affirme qu'il a déclassifié les documents en question alors qu'il était encore à la Maison-Blanche. Une affirmation que son successeur, le président Joe Biden, rejette sur un ton légèrement sarcastique.
Eh bien, je veux juste que vous sachiez que j'ai déclassifié tous les documents qui existent dans le monde. Je suis président, je peux le faire, vraiment.
Monsieur Biden a ajouté qu'il ne voulait même pas connaître les détails de l'enquête, les laissant sous la responsabilité du ministère de la Justice. Le sénateur indépendant Bernie Sanders est également intervenu dimanche dans l'émission This Week sur ABC.
Il y a quelque chose d'un peu absurde dans le fait qu'un ancien président emporte des documents hautement classifiés dans sa propre résidence. C'est juste incompréhensible pour moi, mais encore une fois, quand on parle du président Trump, il y a beaucoup de choses incompréhensibles.
L'ancien vice-président Mike Pence, auquel on a récemment demandé s'il avait pris des documents classifiés lorsqu'il a quitté Washington, a simplement dit
Non, pas à ma connaissance.
Tout cela survient au milieu de nouveaux problèmes juridiques pour Donald Trump, car un ancien cadre supérieur de son entreprise familiale a récemment plaidé coupable d'évasion fiscale. La juge Cannon a fixé à jeudi l'audience pour entendre les arguments concernant la possibilité de faire appel à un avocat arbitre.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Gisèle Morissin, Lionel Niagarima pour la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de rédaction. Au micro, Eric Manirakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, sur votre site internet voafrique.com, sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.